Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission L'heure de l'enquête. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet préoccupant et malheureusement bien trop actuel, la précarité alimentaire dans notre pays. Malgré les efforts de notre société, de plus en plus de Français peinent à se nourrir correctement. Qui sont-ils? Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les causes de cette situation et surtout, quelles sont les solutions envisageables? Restez avec nous, vous êtes les bienvenus sur Radio Galère 88.4. On attend vos appels au 04 91 08 28 10. On attend vos appels au 04 91 08 28 10. En France, malgré les efforts de l'État et des associations, la précarité alimentaire touche de plus en plus de personnes. Avec l'augmentation des coûts de la vie et des inégalités économiques, de nombreuses familles retraités et travailleurs pauvres peinent à se nourrir correctement. Comme Julie, étudiante à la fac d'Aix-Marseille, doit changer son alimentation pour tenir son budget.
Moi, je mange quasiment plus de viande. Des fois, j'essaye une fois par semaine, quoi, mais c'est assez limité. J'ai pas envie de bouffer des pâtes tout le temps. À un moment donné, t'as quand même besoin de manger des légumes, des fruits, un peu de choses diversifiées. Et dès que tu veux manger un peu plus diversifié, bah là, t'en as pour 50 euros de course, rien que pour la semaine, quoi.
Et oui, de plus en plus d'étudiants tirent la sonnette d'alarme face à l'inflation. Cette année a été compliquée pour de nombreux d'entre eux. Marceau, bonjour.
Bonjour, Alec.
Vous avez enquêté avec moi sur ce sujet. Quelques chiffres sur la précarité étudiante, s'il vous plaît.
Oui, donc bonjour, Alec. Bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'être sur Radio Galère dans cette émission. Et oui, voilà, on va rentrer dans le sujet avec quelques chiffres préoccupants, histoire de bien rentrer dans la gravité de ce sujet. Il faut savoir qu'en ce qui concerne la précarité alimentaire pour les étudiants, un étudiant sur deux aurait déjà sauté un repas suite au prix trop élevé. Par rapport à 2022, l'année dernière, le prix de la vie étudiante a évolué de 6,6% à Marseille.
Mais alors, quelles sont les dépenses les plus lourdes, Marceau ?
Pour les étudiants, les dépenses les plus lourdes correspondent à l'alimentation et le logement. Allez, on va rentrer un petit peu dans des chiffres plus précis. Les dépenses des étudiants peuvent varier considérablement en fonction de leur lieu de résidence, de leur mode de vie et de leurs besoins individuels. Alors voici une estimation des principales dépenses mensuelles pour un étudiant en France, basée sur des chiffres de l'année dernière, parce que ceux de cette année, ils ne sont pas encore sortis. Donc au niveau du logement, il faut savoir qu'un étudiant devrait débourser entre 400 et 800 euros par mois de loyer selon la ville de Paris étant la plus chère. Il faut également rajouter 100 euros à peu près pour tout ce qui est charges, donc électricité, eau, internet. Pour son budget de l'alimentation, un étudiant aurait besoin d'à peu près 200 à 300 euros par mois. Et en ce qui concerne le transport, il y a un abonnement mensuel au transport en commun qui coûterait entre 30 et 75 euros. Vous voyez, ça monte très vite, Alec, hein. On peut ajouter à ça aussi des frais de scolarité, les assurances, des petites dépenses pour les loisirs et les activités aussi. C'est important à côté des études de se faire plaisir, mais aussi le loyer du téléphone, voilà, ça peut monter très très vite, donc il faudrait à peu près voilà, un montant minimum de 950 euros par mois pour un étudiant pour vivre correctement, et maximum ça peut monter bien sûr jusqu'à 1600, 1700, hein, des montants qui sont graves.
Oui, avec également le prix de l'essence qui...
Et d'autant plus les transports, voilà, beaucoup d'étudiants qui se déplacent en transport en commun, mais certains qui ont leur propre véhicule. Et effectivement, on sait que voilà, dans un monde où l'inflation ne cesse d'augmenter, le coût de la vie est de plus en plus cher, surtout en cette période électorale. Je pense que c'est important de se mobiliser justement pour faire en sorte, déjà premièrement, de faire barrage à l'extrême droite, bien sûr. On va rester dans le sujet de notre émission. Mais premièrement, faire barrage à l'extrême droite et voilà, ne pas hésiter à se mobiliser pour aller voter dans les urnes dimanche, voilà, pour Front Populaire, pour un monde moins cher, notamment pour essayer de réduire une partie de la précarité alimentaire dans notre pays.
En effet, Marceau, écoutons maintenant un témoignage bouleversant, celui de Maëlle, une étudiante qui un jour a décidé de lever le rideau sur la réalité qu'elle vit au quotidien. Elle s'est exprimée en pleurs sur une vidéo TikTok où elle confie vivre avec 100 euros par mois.
100 euros, on se rend pas
Elle détaille dans cette vidéo les difficultés à vivre pour les étudiants. La vidéo devient virale puisqu'elle cumule plus de 7 millions de vues.
7 millions, c'est que ça montre que le sujet, à quel point il est impactant.
En effet. Maëlle, bonjour et merci d'être avec nous. Commençons par essayer de comprendre cette situation, votre situation. Comment en êtes-vous arrivé à devoir vivre avec seulement 100 euros de bourse par mois par rapport à la situation de vos parents qui sont à Mayotte, votre père est au chômage et votre mère fonctionnaire? Comment ça se fait qu'on ne vous accorde pas de bourse?
Et Mais en fait, ce qui se passe, c'est à Mayotte, il y a la vie chère donc de 45%. C'est comme ça dans tous les DOM. Enfin, c'est pas toujours le même pourcentage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie du salaire qui est reversée pour pouvoir payer voilà la consommation directe sur l'île, tout ce qui est plus cher, toutes les courses, l'essence et tout ça. Et en fait, c'est imposable. Donc, ce qui fait que c'est sur l'avis d'imposition. L'avis d'imposition qui est la seule chose qui est prise en compte quand on remplit les dossiers pour la bourse. Et en fait, ça fait que c'est comme si ma mère vivait, par exemple, avec 3000 euros en France, alors que véritablement, si elle habitait en France, elle aurait 1700 euros de salaire, quoi. Avec 1700 euros de salaire et un père au chômage, en France, on est boursier. Et à Mayotte, avec l'augmentation de la vie chère et les aides qu'ils ont pour payer leur vie là-bas, je me retrouve à perdre ma bourse et j'ai aucun moyen de faire un recours.
Ok Maëlle, et pour combler ce manque, comment vous faites pour survivre? Parce que dans une situation comme vous, on ne vit pas, on survit. Vous enchaînez les petits boulots, les boulots, les petits boulots, les travails.
Les petits boulots, oui.
J'ai travaillé, j'ai fait du babysitting 20 heures, puis j'ai fait un stage qui était aussi 20 heures par semaine, hein, pas par mois. Et ensuite, quand je suis arrivée à Berlin, j'ai travaillé d'abord 20 heures, puis 40 heures en plus de mes études. Parce que j'avais un stage et que c'était pas très bien payé. Et là, cette année, je suis encore à la recherche d'un boulot stable parce que là, j'ai des petits jobs, mais pour l'instant, ça permet juste de compléter. Comme je viens d'avoir la nouvelle que j'aurai que 100 euros de bourse, je suis encore en train de chercher un boulot.
Et j'imagine aussi que c'est compliqué de concilier les études et le travail.
Ah oui, c'est vraiment difficile. Moi, je suis pas contre travailler un peu à côté des études. C'est vrai que pour moi, quand ça dépasse 10 heures, c'est pas vraiment faisable. En France, c'était vraiment difficile parce qu'en fait, moi, je fais Sciences Po et Sciences Po, c'est des études qui sont faites pour être faites à plein temps. Donc, même s'ils me laissaient parfois louper quelques cours parce que je travaillais, c'était, je devais tout le temps courir partout et même avec ça, parfois, je m'en sortais pas forcément. Et donc là, c'est pour ça que j'ai fait un peu cet appel en fait de juste c'est trop. À un moment, il faut qu'on me parle parce qu'avec 100 euros, je sais pas combien d'heures je vais devoir travailler, si je vais même pouvoir être concentrée sur mes études en fait.
Et Maëlle, maintenant, comment avez-vous réagi face au succès de votre vidéo visionnée par plus de 8 millions de personnes? Il y a même une cagnotte qui s'est ouverte où vous avez récolté 14 000 euros de dons, il me semble.
Oui. Alors moi, je pense que j'ai été, je ne sais pas si j'ai été émue, mais en tout cas, j'ai surtout... En fait, pour la cagnotte, j'étais très très heureuse en tout cas. Clairement, ça a changé ma vie quand on vous donne de l'argent pour pouvoir vivre pendant... un an tranquillement, ça change la vie. Et surtout, j'étais inquiétée parce qu'en fait, quand les vidéos, voilà, souvent font beaucoup de vues, ça veut dire que c'est quelque chose à qui tout le monde y a déjà pensé, ou voilà, les gens compatissent parce qu'ils sont dans la même situation. Et je me suis dit, s'il y a 8 millions de vues, s'il y a 1 million de personnes qui ont aimé et tellement de personnes qui ont commenté, ça veut dire quoi sur la situation des étudiants en France, quoi? Ça veut vraiment dire que je ne suis pas la seule. Et je le savais, mais je pense que je ne me rendais pas forcément compte à ce point.
Ok. Et maintenant, vous vouliez aussi faire passer un message au-delà de votre cas. C'est aussi le message de nombreux autres étudiants. On vous écoute.
Oui, en fait, moi, je sais... Enfin, moi, je suis à Sciences Po, donc ça reste un cercle assez privilégié. Mais par exemple, si j'étais à la fac, je serais vraiment pas la pire du tout dans ma situation. Je sais que les étudiants, c'est la galère pour tout le monde, en fait. C'est qu'on est... Bon, on vit la plupart des étudiants pour qui les parents ne peuvent pas payer les études vivent sous le seuil de pauvreté. C'est appelé seuil de pauvreté pour une raison, quoi. Donc c'est la galère pour tout le monde. Et moi, j'ai juste fait ça parce qu'il y avait un trop-plein. Mais je suis contente que ce soit cette vidéo qui ait pris une ampleur comme ça parce qu'en fait, on est tellement d'étudiants dans la galère, qu'on vienne des DOM ou qu'on vienne de métropole, c'est pareil. Enfin, on est tous dans le même, tous dans la même galère.
Merci beaucoup, Maëlle, d'avoir été avec nous sur Radio Galère. Bon courage pour la suite. Il est temps maintenant de faire une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter Téléphone, un autre monde.
Oui, et juste après ça, n'hésitez pas à nous appeler pour réagir à notre émission. Si vous aussi, vous avez été en situation de précarité alimentaire à un moment donné, ou si vous participez justement à aider ces personnes dans le besoin à travers des associations ou des actes que vous faites, des certains dons, n'hésitez pas à nous appeler, étudiants, retraités. On en parlera aussi des retraités qui sont aussi fortement touchés par cette précarité alimentaire. N'hésitez pas à nous appeler, je rappelle le numéro 04 91 08 28 10.
Et bien évidemment, si vous êtes étudiant et que vous avez un salaire assez restreint, vous pouvez nous en parler et nous dire quels sont vos moyens pour vous en sortir avec cette inflation, tout le la façon de vivre dans notre époque.
Les difficultés et tout ça, voilà. On vous retrouve juste après une petite pause musicale sur Radio Galère.
Vous êtes bien sur Radio Galère 88.4. Merci de nous écouter dans votre émission L'heure de l'enquête. Et aujourd'hui, on parle de précarité alimentaire. On attend vos appels au 04 91 08 28 10 pour témoigner. On attend vos appels au 04 91 08 28 10. La précarité alimentaire qui se définit comme l'incapacité pour une partie de la population d'accéder régulièrement à une alimentation suffisante, saine et équilibrée. L'année dernière, près de 8 millions de personnes en France sont concernées par ce problème, soit environ 12% de la population. En faisant notre enquête, Marceau, on a remarqué trois principaux groupes touchés par cette précarité.
Oui Alec, voilà, trois principaux groupes dont font partie les étudiants. On en a parlé en ce début d'émission. Les étudiants qui sont particulièrement confrontés à la précarité alimentaire avec des frais de scolarité, des frais de logement, de vie courante en augmentation, en constante augmentation ces dernières années. De nombreux étudiants doivent choisir parfois entre manger correctement et payer leurs autres dépenses. On retrouve aussi les familles monoparentales, hein, souvent menées par des femmes. Ces familles sont particulièrement vulnérables en raison des faibles revenus et des de la vie élevée. Il faut savoir, Alec, que 20% des familles en France sont monoparentales. Et de plus, ces familles monoparentales sont souvent menées par des femmes, des mères seules, des mères qui n'ont plus le père et qui doivent élever leurs enfants. Et parfois, les pensions alimentaires, on le sait, ne sont pas toujours versées régulièrement ou alors sont insuffisantes pour couvrir les besoins des enfants. S'ajoute à ça aussi le coût de la garde des enfants. On le sait, Alec, des enfants, bon, nous, on n'en a pas encore, mais peut-être que vous en avez, vous qui nous écoutez, et vous savez à quel point ça peut coûter hein, d'élever des enfants, voilà, la garde d'enfants, les activités périscolaires, les soins médicaux, tous ces facteurs pèsent lourd sur le budget des familles monoparentales. Et puis bien sûr, on pense aussi beaucoup, Alec, à nos seniors, hein, les retraités qui sont bien sûr confrontés eux aussi, qui se prennent en pleine face l'inflation avec leurs petites retraites, leurs petites pensions, des pensions souvent insuffisantes pour couvrir leurs besoins alimentaires, Alec.
Et ensuite, nous allons enchaîner avec Paul, qui voilà, a
un témoignage de Paul, exactement.
Paul, 71 ans, qui vit avec moins du coup de 850 euros de retraite par mois. Écoutez son témoignage poignant.
Quand je rentre là-dedans, je regarde des chocolats. Les chocolats, j'en achète pas. Le prix que ça coûte, vous voyez, là, 89 centimes. Par rapport à 4 euros, ben je prends à 89 centimes. C'est souvent les produits les moins chers qui sont placés dans les bas des rayons.
Voilà, Paul a 71 ans et vit seul à Marseille avec une retraite de 850 euros par mois sous le seuil de pauvreté fixé à 1100 euros pour une seule personne. Pour une personne seule. Et son quotidien, c'est ça.
Bien calculé. Heureusement que la mémoire n'a pas lâché. Pour ne pas avoir la calculette à la main et retenir ce que les prix, il y a combien que je suis rendu en course. Et quand je rentre, c'est de compter combien d'argent qui me reste pour jusqu'à la semaine d'après. Je vais à pied en GFOUC, toujours. Et pour remonter, des fois, je me dis, c'est 1,40€ le ticket de bus. Ben, je préfère, comme je dis souvent, une baguette de pain. Alors je réduis, au lieu de manger deux repas, je mange un repas par jour. Je m'achète 3 ou 4 paquets de gâteaux, des gâteaux secs. 50 centimes le paquet de gâteaux. Ah, si j'ai un petit creux, je mange 3-4 gâteaux.
Voilà, après 17 ans de mariage, Paul connaît une séparation difficile qui le fait basculer dans la précarité en ajoutant à cette situation compliquée des problèmes de santé.
J'ai commencé en décembre 68 comme chauffeur. Et j'amenais le poisson de Bretagne à Marseille. La remorque, on la chargeait à la main, on vidait à la main. On roulait 24 sur 24, week-end compris. Hein. La colonne s'est fatiguée, les disques commençaient à s'écrouler, ce qui a provoqué deux hernies discales. Ah non, interdiction totale de travailler.
Face à l'inflation, avec sa faible pension, Paul a dû complètement changer ses habitudes alimentaires, quitte parfois à se priver.
Quand on voit le prix de la viande ou le poisson, c'est de la folie. Moi, je ne peux pas me permettre. Moi qui aime bien la bavette ou des bonnes viandes, ou un roast beef, je ne peux pas. Et c'est ça qui est dur. Moi, je faisais mes cours, je mettais, même sans calculer, pour ainsi dire, je mettais dans le panier, c'est bon. Et là, non. On me dit, t'es radin, quand même, tu pourrais 50 centimes ou 1 euro plus cher. Non. La boulangerie tout à côté, ils jettent régulièrement du pain à la poubelle. Et de récupérer du pain à la poubelle pour mettre au congélateur chez moi.
Voilà, malgré sa situation de précarité alimentaire, Paul refuse de faire appel aux associations pour l'aider, comme les Restos du Cœur, par exemple.
Pour moi, c'est la honte, non. Puis je me dis qu'il y a des gens encore plus malheureux que moi. Tout est cadeau ici chez moi. Même tout au four aussi m'a été donné par les... Un voisin, la chaleur tournante, alors le top du top. Et par contre, la facture, là, vous le faites tourner, le compteur, il tourne.
Il y a beaucoup, mais beaucoup qui n'osent pas en parler. Ou comme on disait, qui n'osent pas aller voir les services sociaux. C'est ça, justement, qui devrait... qu'on donne les noms de certaines personnes aux services sociaux pour qu'ils se déplacent les voir. Il y en a qui ne peuvent pas des papilles, mamie, ils ne bougent pas de chez eux. Alors comment ils vont aller voir une assistante sociale ?
Maintenant, Marceau, quelques chiffres sur la précarité alimentaire des retraités, s'il vous plaît.
Oui, mais avant de rentrer dans les chiffres, Alex, si vous nous écoutez, vous aussi, dans votre salon, au travail ou dans votre voiture, que vous êtes retraité ou que vous avez votre père, votre mère qui fait face à cette précarité alimentaire suite à une petite pension, n'hésitez pas à témoigner, à nous appeler au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. Rentrons un peu plus maintenant dans le sujet de la précarité au niveau des retraités, précarité alimentaire. Il faut savoir, Alec, qu'environ 10% des retraités, soit 1,5 million de personnes âgées, donc de plus de 65 ans, sont touchées par la précarité alimentaire en France. Deuxième chiffre, 10% des retraités vivent en dessous du seuil de pauvreté, fixé à environ 1 102 € par mois l'année dernière. La pension moyenne des retraités est d'environ 1 400 € par mois. Cependant, les disparités sont importantes, avec de nombreux retraités touchant des pensions bien inférieures, surtout ceux ayant eu des carrières interrompues ou des emplois peu rémunérés. Notamment avec la réforme des retraites qui a eu lieu, Alec, on sait que ça a notamment beaucoup impacté certaines revues des retraites pour certains seniors. Moi, je sais que j'ai un oncle qui aujourd'hui a 72 ans et il est obligé encore de travailler les week-ends pour justement cotiser, pour avoir droit à une pension raisonnable. Parce qu'actuellement, je sais qu'il est avec ses petits-enfants à la maison et c'est lui qui doit les prendre en charge. Il a deux petites filles et c'est à lui de les faire vivre pour des raisons familiales. Et du coup, avec sa femme, ils sont obligés encore de travailler alors qu'ils ont tous les deux 67 et 72 ans. Donc c'est quand même fou de voir que nos seniors doivent encore se lever le cul pour aller travailler dans un monde où on devrait pouvoir profiter justement après avoir assez donné au travail, au pays. On reprend avec une étude de l'INSEE, Alec, qui a montré que les ménages les plus modestes, y compris les retraités, réduisent leur consommation de fruits et légumes et protéines en période de contraintes budgétaires. Donc on voit que un petit budget peut impacter fortement le régime alimentaire et donc la santé. De plus en plus de retraités ont recours, malgré ça, aux associations caritatives et aux banques alimentaires pour subvenir à leurs besoins. Sachez qu'environ 15% des bénéficiaires des Restos du Cœur sont des personnes âgées.
Nouvelle pause musicale, plongeons dans les années 80 avec Voyage Voyage de Desireless sur Radio Galère.
je voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage. Et jamais ne reviens.
Quelle belle musique, vous êtes bien sur Radio Galère 88.4 dans votre émission L'Heure de l'Enquête et on parle de la précarité alimentaire aujourd'hui. On parlait des retraités qui sont confrontés à cette précarité. Écoutons maintenant un reportage aux côtés de Jacques, 80 ans, et qui est obligé de travailler pour tenir tout le mois.
Ah, on a un petit problème de direct, les aléas du direct, on bouge pas. C'est...
Et
c'est
j'ai bon. Repris le travail parce que sinon, bah, j'arrive pas à vivre. Je fais des vertiges, je tombe, mais je suis obligé de travailler quand même. Hein. Parce qu'avec 900 euros de retraite, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et demander l'argent à mes enfants, ça me gêne. Et c'est ma veste de travail du magasin. Alors, vous voyez comment j'ai des difficultés avec un bras de m'habiller. Voilà, je suis obligé de faire ça comme ça. Et d'y aller doucement. Voilà. J'aurais jamais pensé que j'aurais travaillé à cet âge-là. Déjà pour commencer. Avec une retraite de 900 euros. Dans mon appartement ici, je paye 595 euros. Vous voyez, le total que je paye est là. Je paye 91 euros d'électricité. 80 euros de mutuelle, quand j'ai tout payé, il ne me reste rien. Donc au lieu de faire la manche, bah, je préfère travailler. Et puis ça me permet de voir des gens et d'être moins seul à la maison. Seul, c'est très difficile. J'ai pris la retraite à 65 ans. J'ai travaillé d'abord dans le bâtiment, après j'ai travaillé en usine, après j'ai travaillé comme éducateur. Bah, disons que j'ai fait beaucoup de choses. Donc, vous voyez, le problème, c'est de me lever. Depuis une dizaine d'années, je fais le Père Noël chez le patron des magasins frais. Il savait mes difficultés. Il m'a dit « Jacques, est-ce que tu veux pas travailler chez nous un petit peu ?» J'ai dit « Claude, tu sais que j'ai qu'un seul bras, qu'est-ce que je vais faire ?» Il me dit « T'en fais pas, tu feras rien de bien dur. Tu vas ranger des petits trucs, viens voir. Ça va te faire un petit complément d'argent. Je préfère te voir là que de te voir mendier. » Du moment que ça me fait 300 euros, ça va. Toi, tu restes ici.
Donc là, chemin vers le travail.
Ouais.
Ah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu trembles?
Ça va s'arrêter, tu sais bien.
C'est difficile hein, de voir qu'une personne âgée comme ça, à 80 ans, reprend le travail parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. C'est comme si c'était mon papa, donc c'est de plus en plus dur. Moi, je suis responsable d'une association d'un quartier. Je vois de plus en plus de personnes de son âge, malheureusement, venir récupérer des paniers repas tous les soirs à la distribution. Et c'est triste. Hein.
Bah, c'est grave quand même, à 80 ans, reprendre le boulot. c'est la folie. Hein.
Ça vous étonne dans la situation actuelle de voir des choses comme ça?
Non, pas vraiment. Malheureusement, non.
Il y a beaucoup de gens qui me disent « Jacques, t'es courageux, franchement, on se voit pas nous si on pourrait le faire ». Les gens, ils sont surpris, oui et non, parce que physiquement, ils n'arrivent pas à me donner mon âge. Alors là, ils me posent la question, ils me disent « Vous avez quel âge ? 60 ans ? Maximum 65 ans ?» Bah, je la regarde et je dis « Vous êtes très gentil, je voudrais bien ». Mais malheureusement, j'ai 80 ans. 90% des gens, ça les surprend.
Moi, Jaco, on est des anciens.
Il vous a dit qu'il allait au travail, ça vous surprend?
Oui, il est incapable de travailler. Hein. Ouais, il est incapable de travailler. T'as vu comment il tombe un petit peu? On a des vieux pépères. Nous.
Ouais. Ouais, je vais 3, 6 heures par semaine.
Bah, du courage. Hein.
Je prends du courage, qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
Ça vous semble normal qu'une personne ait 40
ans? Non, c'est pas normal.
Voilà, c'est là que je descends. Pour descendre, c'est toujours. Je fais toujours attention. C'est ça surtout qui me faisait peur, d'avoir des problèmes au magasin et de tomber. Heureusement, jusqu'à maintenant, c'est pas arrivé, mais j'espère que ça va jamais arriver. 3 heures le jeudi, 3 heures le samedi. Avant, je faisais 10 heures. Mais le médecin contrôle a dit que c'était trop. Sur les 10 heures, en travail effectif, disons, je faisais peut-être que 8 heures. Parce que mon patron, même les collègues, quand ils me voyaient un peu fatigué, ils me disent « Jacques, tu vas te reposer. »
Collègue de travail, ça va? Tu vois, ça va Père Noël. Ouais, il m'appelle Père Noël. Je préfère faire de Père Noël hein, que ça. Hein. Ouais, ça va.
Et là, j'en ai, bah, il est quelle heure? Il est midi.
Merci d'avoir écouté ce reportage. Si vous voulez témoigner, passez à l'antenne au 04 91 08 28 10. Et tout de suite, nous retrouvons en direct René qui a 87 ans et qui habite sur Vitrolles.
Allô René ? René, vous nous entendez ?
Oui, bonjour.
Bonjour René, merci
bonjour
d'être avec nous.
Heureux d'être sur les antennes de Radio Galère.
Mais heureux de vous recevoir, René, oui. Dans notre émission.
Bienvenue, René.
La meilleure radio des Bouches-du-Rhône.
Et oui, et on espère justement qu'elle puisse perdurer encore de nombreuses années.
Oui, hein. Oui, voilà, moi, c'est pour. Je comprends la précarité de tous ces retraités. Moi, j'en ai subi les conséquences aussi, j'en subis encore. J'ai arrêté de travailler à 81 ans.
81 ans, et quel métier, sans indiscrétion, quel métier exercez-vous?
Chauffeur de car.
Pendant combien d'années?
Non, j'ai arrêté parce que mon permis est arrivé en rupture, et la visite médicale, je savais que dorénavant, elle m'aurait été refusée.
Ok, merci.
Alors,
René.
J'ai arrêté de travailler. Et moi, j'ai une petite retraite, j'ai 1300 euros par mois. Et vous savez que quand vous continuez parce que j'ai pris ma retraite à 65 ans. Et de suite, le lendemain, j'ai continué à travailler à l'entreprise qui m'a refait un nouveau contrat. Mais quand vous travaillez, j'ai travaillé 16 ans, mais au niveau de retraite, vous n'avez rien du tout. En supplément.
Rien en supplément.
Vous travaillez, mais vous n'avez rien en supplément.
Justement, René, on en parlait tout à l'heure.
Oui.
Quelles peuvent être les dépenses auxquelles vous êtes confronté en tant que retraité? C'est-à-dire quoi? Une grosse facture d'électricité? Vous, quelle est votre plus grosse dépense dans le mois?
Je suis en villa, moi, j'ai une villa. Alors, vous voyez, j'ai des grosses factures d'électricité. Bon, le gaz, il n'y en a pas. Mais l'électricité, il y a l'eau et tout ce qui suit. La nourriture, se nourrir et tout, le reste, faire attention, au lieu d'aller dans les grandes surfaces, aller dans les petites surfaces, Lidl et compagnie, sans faire la publicité. Voilà.
Et merci René. Et vous avez travaillé durant toute votre vie, du coup, par rapport à cette retraite. Vous avez travaillé, dites-nous tout sur votre carrière.
J'ai travaillé depuis que j'ai quitté l'armée. Et j'ai même travaillé avant de faire l'armée.
Même
parce qu'en ce temps-là, l'armée, c'était 21 ans.
Ok, d'accord. Et vous avez exercé jusqu'à 65 ans à peu près avant de faire chauffeur de bus?
Non, j'ai fait. Quand j'ai arrêté chauffeur de bus, j'avais fait 29 ans de chauffeur de bus.
Ah oui,
mais avant, j'ai fait toutes sortes de métiers. J'ai travaillé dans les travaux publics, j'étais conducteur d'engin, j'ai été machiniste en menuiserie, j'ai été Et j'ai été quoi encore? Oui, voilà, chef de chantier, j'ai fait un peu de tout.
Hein. Et il vous a manqué combien, du coup, René, pour avoir une retraite raisonnable?
J'ai pris ma retraite à 136 trimestres.
Ok. Et pour vous, justement...
Ouais, parce que j'ai travaillé beaucoup, j'ai travaillé en famille sans être déclaré.
Eh oui, c'est ça qui a fait qu'il vous a manqué des cotisations.
Voilà, ouais. qui m'a, oui.
Et pour vous, quel serait l'âge idéal pour un départ à la retraite, René, pour vous?
Pour moi, 65 ans, c'est bien.
65 ans, c'est correct. Voilà, 60 ans, ce serait peut-être trop tôt. 67, trop tard. 65, c'est le juste milieu pour
voilà,
vous.
Voilà, voilà. Bon, je l'ai pris à 65 ans pile, moi. 65 ans pile. Ben, je me sentais en pleine forme. Je vois pas pourquoi. Bon, maintenant, voilà. Tout dépend du métier qu'on fait. Voilà, voilà. Exactement. Moi, je veux pas... Moi, j'avais des métiers un peu moins stressants, moins durs. Mais celui qui travaille... toute sa vie sur les chantiers, dans les chantiers d'un travaux public, comme manœuvre. Oui. Non. Lui, il faut qu'il apprenne à 60 ans.
Revenons sur la précarité alimentaire. René, justement, vous, est-ce que vous avez vu le coût de la nourriture augmenter, c'est-à-dire dans les supermarchés?
Non. Oui, mon épouse, quand elle revient, elle revient presque avec les larmes.
Ah oui. Parce que...
Au niveau de la viande et tout, on mange presque plus de viande. Hein. La viande et tout... On mange surtout du poulet parce que c'est moins cher.
Eh oui. Donc c'est-à-dire voilà moins de viande, comme ce que disaient un peu les gens qui sont intervenus dans notre Paul par
viande,
exemple.
Beaucoup de légumes.
Eh oui.
On prend beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. Et encore les fruits, on garde ce qu'on achète parce qu'ils sont chers les fruits. Voilà. C'est notre problème, c'est l'alimentation. Là, j'ai 87 ans, vous savez, je le sens.
Hein. Et René, sans indiscrétion, René, avez-vous pu partir en vacances sur ces dernières années ou à cause du coût de la vie? Comment?
Je ne pars plus en vacances. Là. Mon dernier vacances, c'est il y a 2021, je suis allé à la Martinique.
Ah ouais, donc ça impacte vraiment les petites retraites, voilà. Et vous avez René des personnes dans votre entourage, des amis ou quoi que ce soit, qui eux aussi connaissent des difficultés vis-à-vis de leur petite pension pour vivre?
Ah oui, j'ai un voisin aussi parce que lui c'est pas pareil, lui il a le cancer, c'est pas pareil. Ah ouais. Il a des problèmes d'alimentation, lui il mange pas n'importe quoi, lui. Quand il va à Lidl, il regarde ce qu'il achète. Hein. Voilà.
Très bien.
Je connais beaucoup de gens qui sont dans cette précarité. Hein. Tout ça est dû à tous nos dirigeants.
Ouais. Oui.
Ils sont en train de s'en prendre plein la figure.
Est-ce que vous avez un dernier mot, René, pour clôturer l'émission?
Le dernier mot, c'est qu'à tous ces retraités qui sont dans mon cas et dans le cas, et tous ceux qui sont dans ce cas-là, je leur souhaite beaucoup de courage. Je n'ai pas quoi leur souhaiter. Hein. Je sais pas quoi leur souhaiter. Je leur souhaite beaucoup de courage.
La santé surtout.
Et qu'ils fassent attention. Beaucoup de courage. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Qu'est-ce que vous voulez souhaiter d'autre?
La santé.
Quand vous n'avez pas l'argent qui arrive, qu'est-ce que vous voulez souhaiter d'autre?
Et oui, René.
Le gouvernement ne vous aide pas. Voilà.
Le message est passé, René.
J'ai content de discuter avec vous à l'antenne de Radio Gaël.
Eh bien, nous aussi, on vous remercie beaucoup, René, de nous avoir appelés. On vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup, René.
Merci à René. Et bon courage à tous les retraités comme moi.
Le message est passé. Bon courage à eux. Merci, René.
Bonne journée.
Merci beaucoup, René.
Merci. Au revoir.
Un témoignage de René qui confirme tout ce qu'on a dit dans l'émission. Voilà, René qui habite Vitrolles. Et c'était sympa d'avoir René au téléphone pour qu'il puisse faire passer justement son message. Voilà, et effectivement, on partage tout ce qu'a dit René. On souhaite beaucoup de courage à nos retraités. Moi, je sais aussi que j'entends parfois ma grand-mère se plaindre de sa petite pension. Et c'est vrai que ce que dit René, c'est très vrai. Il y a beaucoup de seniors, de retraités qui ont travaillé, en fait. Ils ont travaillé, ça, on ne le néglige pas. Mais ce n'était pas forcément déclaré, comme le disait René. Moi, je sais que ma grand-mère a beaucoup travaillé au black, quoi. Et donc, il lui manquait des années pour avoir une pension raisonnable. Voilà, c'est vrai.
Et cela décale en plus l'âge. Ah oui. De la retraite.
Ah ouais, c'est totalement fou ce que nous disait René. Vous avez vu l'âge, jusqu'à quel âge il a dû travailler. Ben merci à tous de nous avoir écoutés sur Radio Galère. Alex, c'est l'heure de clôturer cette émission. Voilà, merci de nous avoir écoutés pour cette émission de l'heure de l'enquête sur la précarité. Merci à René de nous avoir appelés. On clôture l'émission comment, Alex?
Écoutez Marceau, nous allons écouter une petite musique.
Voilà, dans le thème.
Dans le thème, nous allons écouter Génération Enfoirée, la chanson des restos. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée sur notre antenne de Radio Galère.
Voilà, et un dernier petit mot aussi pour de nombreuses personnes qui sont peut-être en situation de précarité alimentaire et qui n'osent pas, hein, c'est un cas qu'on a remarqué dans notre enquête, qui n'osent pas faire le premier pas justement pour aller vers ces associations qui distribuent, je pense aux banques alimentaires, je pense aux Restos du Cœur. N'ayez pas peur, ne craignez rien, vous pouvez y aller, ayez le courage, comme a dit René, il vous faut du courage, donc allez-y, c'est des personnes qui sont mobilisées justement pour cette aide, il n'y a pas de honte à avoir, donc voilà, allez-y, n'hésitez pas et tenez le coup, courage à tous. Voilà, on finit avec la musique des Restos du Cœur, merci à tous de nous avoir écoutés sur Radio Galère.
Merci beaucoup.
88.4.
Je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra fort les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nous ne peut-être grossir la vie.
Toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable.
Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes, les autres sont toujours, toujours en overdose.
J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs.
C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on y change un.
Chacun pour soi, quand je pense à toi, je pense à moi.